avion sans air. J'ai chanté toute la nuit. J'ai chanté pour ça.
Radio.
Radio. Toute la nuit.
Radio. Panique. Panique. Radio. Radio. Panique.
Comme un avion sans aile, l'histoire de Radio Panique. Première partie, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes, 1983-1987. Chapitre 4, Radio Panique s'enfonce dans la crise.
Dans la précédente émission, nous avons montré que la crise qui frappe Radio Panique, quelques mois après sa naissance, avait une cause externe et une cause interne qui se conditionnent mutuellement. La cause interne, c'est le manque de moyens humains, techniques et financiers pour réaliser le projet désiré. Le fossé entre le concept et la réalité se creuse gravement. Nous voulions devenir une autre radio libre, nous n'en avons pas les moyens. Nous voulions dépasser ce que nous considérions comme le misérabilisme des premières radios libres, c'est l'échec. La cause externe, c'est la situation politico-institutionnelle de la Belgique. Les radios libres, telles Radio Panique, sont reconnues par la communauté française, mais le gouvernement fédéral ne leur attribue pas de fréquence. Résultat, la loi de la jungle fait rage sur la bande FM. Les premières victimes sont les radios libres d'expression. Les atermoiements politiques recouvrent en réalité des intérêts économiques.
Nous avons vu précédemment que l'arrêté royal Willox du 20 août 1980 interdit la publicité sur les ondes et que le décret Valmy-Féo du 8 septembre 1981 interdit de reconnaître une radio à objectif publicitaire. Le PRL met en cause ces dernières dispositions car la publicité sur les ondes est de compétence nationale. Le Conseil d'État, puis la Cour d'arbitrage, s'empare du dossier. Ce n'est que le 20 décembre 1985 qu'elle tranchera en faveur de la thèse du PRL. Entre-temps, nous l'avons vu, en mars 1984, la commission de l'audiovisuel, mise en place par le ministre Philippe Moreau, fait la recommandation de changer sur ce point le décret de 1981. Le PRL accède au pouvoir national. En 1984, Jean Gol, ministre de la Justice, recommande aux procureurs généraux de ne plus poursuivre les radios. Le ministre de Croo modifie l'arrêté Willox le 15 juin 1985. La publicité commerciale est autorisée pour les radios locales. La reconnaissance de RTL-TVI puis l'autorisation de la publicité sur la RTBF n'interviendront que quelques années plus tard, respectivement en 1987 et 1991. Les radios du GRIB n'ont pas attendu la légalisation pour diffuser de la publicité sur leur antenne, nous le savons. Le phénomène commence en 1982. IP, la filiale belge de Havas Intermédiation, fait le raisonnement suivant. La radio, en général, c'est 5% de part du marché publicitaire. Cela veut dire, dans la Belgique du début des années 80, 2 milliards de francs à saisir. La place est vide, ce sera certes illégal encore un temps, mais il faut prendre sa place et aller chercher ces 2 milliards. IP, la régie de RTL, part à la conquête des radios et tout d'abord de celles qui deviendront le réseau Radio Contact sous le nom de Radio Key, puis de IP Transistor. IP sera concurrencé à partir de 1985 par le groupe Josy, qui possède le Pourquoi Pas, et crée Leader FM qui commercialisera la filière SIS. La loi de la jungle sur les ondes est donc la résultante d'une guerre économique dont les enjeux sont connus par les opérateurs des régies publicitaires. Ceux-ci conquièrent les plus grandes radios à Bruxelles et les incitent à constituer des réseaux dans tout le pays. Les réseaux vont se constituer par la méthode du franchising que pratiquent surtout Contact et SIS. Au départ, les radios reçoivent l'appoint logistique de la tête de réseau et lui restournent une part de leurs recettes publicitaires. Au terme, elles ne seront plus que succursales. Les éditeurs de presse se lanceront aussi dans la bagarre, avec plus ou moins de succès. On y reviendra plus tard.
Moins d'une demi-année après sa naissance, été 1984, Radio Panique sort vaincu de la guerre qui sévit sur la bande FM. Totalement brouillé, son audience est insignifiante. Résultat, découragement du groupe qui la soutenait au départ et impossibilité de conquérir de nouveaux auditeurs. Double ligature. Sans audience, Radio Panique ne peut focaliser le mouvement des citoyens sur lequel elle compte pour lui donner les moyens de se développer et de faire pression sur le monde politique afin de se voir attribuer une fréquence protégée. En attendant que la guerre des ondes s'apaise et qu'enfin un plan de fréquence soit imposé, nous voudrions au moins agrandir le cercle de nos animateurs et développer notre programmation. Concrètement, cela veut dire améliorer notre installation, émettre avec plus de puissance, surélever l'antenne, disposer d'une régie technique plus ou moins valable. Mais pour cela, il faut de l'argent. Or, de l'argent, il n'y a point. Le mini-capital de départ a vite disparu. D'où peut venir l'argent? La communauté française ne subsidie pas les radios qu'elle reconnaît. Radio Panique est d'ailleurs isolée dans sa revendication de subsidiation. Les radios fondatrices de l'ALO refusent le principe de la subsidiation pour ne pas être liées au pouvoir étatique.
En France, c'est déjà en 1983 qu'un fonds d'aide à l'expression radiophonique est créé pour soutenir les radios associatives n'ayant aucune activité commerciale. Une taxe parafiscale est prélevée sur les publicités radiophoniques et télévisuelles. Une commission est chargée de répartir entre les radios le produit de cette taxe. Cette commission est composée de représentants de l'État à parité avec des représentants des radios et des régies publicitaires. Un chiffre. En 1992, le budget disponible était de 90 millions de francs français. Le montant de la subvention pour une radio est défini en fonction de l'étude des besoins financiers de cette radio. Il y a deux types de subventions. Les subventions d'installation pouvant être octroyées à toute nouvelle radio non commerciale déjà titulaire d'une première autorisation d'émettre, et les subventions annuelles de fonctionnement dont le montant est établi selon différents critères. En 1992, 383 radios ont obtenu cette subvention. Une radio comme Radio Panique en France pourrait obtenir une subvention annuelle de l'ordre de 2 à 3 millions de francs belges. En Belgique francophone, un fonds d'aide ne sera instauré qu'en 1987. Jusqu'à ce jour, ce fonds d'aide sera alimenté par les recettes publicitaires radio de la seule RTBF, une dizaine de millions de francs par année. Mais contrairement à la France, ce fonds d'aide ne subventionne que les projets ponctuels d'émissions radiophoniques. Les radios ne sont pas subventionnées comme telles.
En l'absence de subsides, il n'y a que quatre possibilités de rentrée d'argent. Premièrement, l'apport des auditeurs. Deuxièmement, les prestations de la radio. Troisièmement, l'apport des membres et animateurs de la radio. Quatrièmement, le sponsoring et la publicité.
N'importe quoi pour le fric.
Les auditeurs, d'abord, il faudrait en avoir. Et puis, au contraire d'autres pays, ce n'est pas dans les mœurs belges de payer une cotisation d'auditeur. Les citoyens payent déjà une redevance radio-télévision assez onéreuse. Le produit de cette redevance n'est par contre pas automatiquement destiné aux dotations ou aux subventions concernant l'audiovisuel.
À Radio Panique, à cette époque de misère, nous tentons de vendre des cartes annuelles de soutien, mais ça ne marche pas bien. On a si peu à offrir en échange. En septembre 1984, nous lançons une souscription destinée à améliorer notre infrastructure technique. On envisage d'obtenir ainsi 300 000 francs. Il faut avouer que la plupart du temps, ce sont nous-mêmes et des amis personnels qui souscrivent, plus par amitié que par conviction. Cela rapportera quelques 70 000 francs. Hélas, cet argent ne pourra pas être consacré aux investissements de matériel. La survie primaire de l'outil mange une partie de cette somme.
Deuxième source possible de rentrée d'argent, des prestations rentables de la radio elle-même.
Il y a les fêtes, les soirées animées par Radio Panique. Plusieurs ont lieu lors des deux premières années, mais elles ne rapportent pas grand-chose. Carlos D'Amata et Vincent Dozo lancent une Sono en 1985, dont les bénéfices doivent revenir à la radio. Ils utilisent leur propre matériel. Assez vite, ils en auront marre de cette activité, dont eux-mêmes ne tirent aucun profit. Ce que cette Sono rapporte à la radio est insignifiant. On lance l'idée de stage de radio pour les jeunes en été. Très peu de succès. Nous tâchons de prester quelques services, par exemple des enregistrements. C'est culotté avec notre technique misérable. Évidemment, le résultat est nul. De manière générale, c'est très limite de demander à des animateurs bénévoles d'encore investir dans des activités devant être avant tout rentables. Une radio qui se veut alternative n'est quand même pas une secte.
N'importe quoi pour le fric.
Troisième source de financement, les artisans de la radio.
À cette époque, tous les membres de la radio sont des animateurs d'émissions. Ce sont eux qui font exister la radio. Il n'est pas question alors de leur réclamer des cotisations de membres. En effet, ils sont bénévoles et se procurent eux-mêmes les documents sonores dont ils ont besoin pour faire leurs émissions. En plus, on exige d'eux une cotisation d'animation. Au départ, les animateurs payent une cotisation de 75 francs, puis après juin 1984, de 100 francs par heure d'émission. En principe, l'argent des cotisations doit couvrir les dépenses courantes, à savoir celles relatives au loyer, charges locatives, ainsi qu'au bon fonctionnement de la régie technique. Bien qu'à l'époque, ces cotisations constituent l'essentiel de nos rentrées, cela ne suffit pas encore à payer les dépenses courantes. Il y a trop peu d'émissions. Et puis même si aucun animateur ne conteste le principe de la cotisation, les retards de paiement vont vite devenir l'habitude.
Le retard des paiements de cotisations d'animation tourmente le permanent.
Il va de soi pour tous que c'est moi, le permanent rémunéré, l'abatteur des bastages, qui dois être le trésorier. C'est donc moi qui dois ramasser l'argent des cotisations. Je serai confronté pendant des années et des années au phénomène chronique du retard des paiements, voire du refus de paiement. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 février 1984.
Il y a encore trop de retard dans le paiement des cotisations, surtout de la part de certaines émissions. Il faut que cela rentre dans l'ordre.
Conseil de gestion du 20 mars 1984.
N'oubliez donc pas de verser votre cotisation d'animateur. Avec tous ces retards, c'est tout le monde qui en pâtit. On n'en sort vraiment pas. On n'a pas encore payé les placeurs d'antenne. Il n'y a pas d'argent pour acheter de nouvelles aiguilles pour les pick-up ou des bandes pour l'enregistreur. Sorry de devoir toujours revenir là-dessus.
Je pourrai bientôt élaborer une sorte de phénoménologie du rapport à l'argent des animateurs de radio libre. Les uns sont tout à fait corrects. L'argent arrive régulièrement tous les mois. Certains espèrent que leur retard fera oublier leurs dettes. D'autres encore, surtout parmi les très jeunes, ont de réels problèmes à s'acquitter de leurs cotisations. On transige alors. D'autres enfin, comme des comptables, retardent progressivement leurs paiements, paraissant en ordre alors qu'ils accumulent les dettes. Les uns versent sur le compte de la radio, les autres paient au jour le jour avec de la petite monnaie. Entre les deux, tous les cas de figure. Procès verbal de l'Assemblée Générale du 7 mai 1984.
Rappel, payez vos cotisations. Rappel, payez vos cotisations. Rappel, payez vos cotisations. Sinon bientôt de très désagréables surprises.
Tout cela m'exaspère. Je n'arrive pas à comprendre ni à accepter qu'un volontaire dans une association ne soit pas loyal avec ses engagements. Je m'énerve parfois. En fait, comme trésorier, je sais combien, à cette époque, nous sommes dépendants de ces quelques centaines de francs, semaine après semaine, mois après mois. J'en arrive à en vouloir à certains animateurs parce qu'ils m'acculent à devoir intervenir sans fin pour récolter leurs cotisations. Je le vis mal. En quelque sorte, je le prends trop sur moi. Parfois, je m'imagine en percepteur d'impôts, en billettiste ou en huissier, voire en gendarme. Je voudrais endosser un quelconque uniforme en ces occasions. Faites gaffe, très cher. Ce n'est pas le pauvre Marcel qui vous en veut. C'est le gardien de l'association. Combien d'animateurs ne me perçoivent-ils pas à ce niveau comme dur et intransigeant? L'image que j'ai de moi en souffre.
Je remarque qu'à Radio Panique, contrairement à la plupart des autres radios du même genre, les cotisations ne sont pas forfaitaires par animateur. Elles varient en fonction du nombre d'heures d'émission. Pourquoi ?
On trouve cela plus équitable. On trouve en effet injuste qu'un animateur style DJ ou un groupe organisé qui couvre par exemple 5 heures d'émission paye la même chose qu'une équipe de 3 ou 5 personnes réalisant une émission de qualité pendant une heure. Les disparités de revenus entre animateurs sont d'ailleurs telles qu'on ne voit pas comment fixer un montant équitable de cotisation. Il nous semble préférable de lier l'apport des animateurs à leurs prestations, même si celle-ci est perçue de manière purement quantitative. À la réflexion, lier le montant de la cotisation à l'heure d'émission a peut-être des effets pervers dont nous ne sommes pas suffisamment conscients à l'époque.
Comment cela ?
Payer l'heure d'émission renforce la mentalité selon laquelle l'animateur est un locataire d'heure d'émission. C'est comme s'il payait son droit d'émettre. Une fois l'heure louée, il peut estimer être quitte vis-à-vis de la station. Il fait ce qu'il veut de cette heure et il n'est pas enclin à s'occuper en sus du sort global de la radio. Ce n'est pas très favorable pour cette culture d'association et cet esprit de solidarité que nous voulons promouvoir. Au contraire, payer une cotisation forfaitaire pour devenir membre et animateur de la radio est peut-être plus favorable pour développer un sentiment d'appartenance et de responsabilité à l'égard de la station dans son ensemble. Deuxième effet pervers possible de notre système, des groupes organisés, pourvus de ressources humaines et financières, sont susceptibles de louer de grands nombres d'heures. Par contre, des individus isolés et financièrement démunis peuvent plus difficilement prendre en charge autant d'heures. De graves déséquilibres dans la programmation et l'esprit de solidarité peuvent en résulter. Nous apprendrons petit à petit, mais sans doute trop tard, à dresser des barrières par rapport à l'appétit vorace de certains groupes. Un troisième effet pervers concerne la gestion. Les responsables à la recherche d'argent ne vont-ils pas être tentés de chercher à louer un maximum d'heures à un maximum d'animateurs sans toujours tenir suffisamment compte de la cohérence de la programmation et de la qualité des projets d'émission? C'est un grave problème. La gestion de la misère peut conduire à la misère de la gestion.
Reste la quatrième source possible d'argent, la publicité. Vous n'y êtes pas opposé par principe, n'est-ce pas ?
Non, mais il y a des discussions à ce sujet. Certains disent oui à un type de publicité originale, comme celle qui fleurit alors dans certains hebdomadaires français et dans le journal Libération. Mais il n'y a pas d'annonceur de ce type en Belgique. D'autres, par contre, ne feraient pas la moue si de grandes multinationales frappaient à la porte. D'autres, enfin, restent farouchement opposés à toutes sortes de publicités. Il faut bien se dire que cette discussion est sans portée réelle. Notre situation sur les ondes est précaire. Nous sommes partout brouillés. Notre programmation est disparate. Nous sommes inintéressants pour les régies publicitaires. Il n'y a de toute façon personne chez nous prêt à prospecter sérieusement ce secteur. Il en est de même quant au sponsoring financier. Ce ne sera jamais que par complaisance d'amis ou dans des conjonctures tout à fait particulières que Radio Panique comme telle bénéficiera ponctuellement de ce type d'appoint. En 1985, nous constatons que certaines émissions se permettent de citer leurs sponsors particuliers, par exemple un disquaire ou une agence de voyage, et de faire de la véritable publicité locale, par exemple restaurants, marchands de tissus, etc. Les émissions turques, alors omniprésentes sur Radio Panique, se font même concurrence entre elles, bradant les prix pour obtenir un maximum d'annonceurs. Le conseil de gestion du 10 juin 1985 y met le holà. Après discussion, on décidera de promulguer un règlement de la publicité, fixant notamment le prix du spot de base et le pourcentage à ristourner à la radio. Plusieurs émissions pratiqueront un sponsoring qui leur donne des avantages souvent en nature, notamment des disques ou des voyages. Cette pratique restera peu transparente, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. En principe, tout avantage en nature ou financier acquis par le sponsoring doit être réglé avec le conseil de gestion et mis à la disposition de la radio dans son ensemble. Certains appliquent cette consigne, la plupart non. Il sera dans les faits absolument impossible de contrôler des pratiques qui sont sans doute perçus par beaucoup comme une sorte de compensation par rapport à leur obligation de payer des cotisations d'animation. Encore un coup pour notre volonté d'une culture associative solidaire.
Dans ces conditions, je me demande comment vous avez tenu le coup.
Nous fûmes quelques-uns à y aller de notre poche. Et puis, ces années de misère-là, le budget était forcément peu important. Et puis, les chemins de la survie sont parfois insoupçonnés. Entre autres choses, je ne résiste pas à l'envie d'évoquer l'apport de notre courtier d'assurance. Il était employé au mouvement ouvrier chrétien, aujourd'hui retraité. Il se débrouillera depuis le début de la radio en 1983 jusqu'en 1995 pour que toutes nos primes d'assurance soient en ordre, sans que jamais nous ne dépensions un seul franc. Comment fait-il ? Je ne le saurai jamais. C'est un courtier à l'ancienne, très convivial, père de deux enfants. Il n'est ni intellectuel, ni utopiste, et de plus, il n'écoute pas les radios libres. Il sait très bien que dans notre milieu, sa pratique n'amènera aucun client de plus pour sa firme d'assurance, ni aucun électeur de plus pour son parti. Il me plaît aujourd'hui de rendre hommage à ce brave homme qui en a fait plus pour la survie de la radio que beaucoup de ses membres. Il nous aidera jusqu'à la fin de sa carrière, qui coïncidera avec les dures tractations après l'incendie de nos installations en 1995. Par la suite, nous aurons un courtier d'assurance d'aujourd'hui, plutôt jeune, technocratique et insensible, et nous paierons effectivement nos primes. Un souvenir précis. L'hiver 1984-85 est particulièrement rigoureux. Le froid est glacial. Pendant plusieurs jours, la cour de Radio Panique est gelée. On risque sa vie en la traversant pour se rendre dans la régie technique. À la fonte des glaces, les canalisations du premier étage, là où habite notre propriétaire octogénaire, explosent et notre régie technique est inondée. Heureusement, notre émetteur est sain et sauf, de même que la table de mixage. Mais ce n'est pas le cas pour le reste du matériel. Appel est donc fait à notre courtier d'assurance. Oui, c'est prévu dans les contrats, ça va marcher. Un ami et moi avons l'idée d'amasser du matériel irrécupérable et versons des seaux d'eau dessus. Nous l'ajoutons au matériel endommagé par l'inondation. Voilà à quoi on est réduit quand on n'a pas d'argent et qu'on en a besoin. Honteux, n'est-ce pas ? Je ne m'en glorifie pas. Je raconte ça comme indice de notre détresse d'alors. Les experts des assurances s'amènent. Mon courtier m'a prévenu qu'il est absolument indispensable que je leur offre à boire. Je ne suis finalement pas sûr qu'ils ne se sont pas aperçus de notre supercherie. Quoi qu'il en soit, buvant joyeusement leur verre de bière, comme une bande de vieux copains, ils se mettent d'accord entre eux et évaluent à 75 000 francs un matériel pratiquement sans aucune valeur. C'est une rentrée formidable pour nous, le tiers de notre budget annuel. Merci Saint-Nicolas.
Je pense que ça ne se passerait plus comme ça dans les années 90.
Qu'est-ce qu'on dit ? Bonjour la crapule.
N'importe quoi pour le fric.
La crise de Radio Panique vécue depuis mars 1984 fait irruption au grand jour lors de la réunion du conseil de gestion du 18 septembre de la même année. Carlos D'Amata et Vincent Dozo, deux des membres fondateurs, critiquent le fait que les animateurs ne sont pour la plupart que des usagers payants ou ne payant pas ou payant en retard leurs heures d'antenne. Ils critiquent en outre l'inefficacité et l'incompétence du conseil de gestion dont ils font cependant partie. Le conseil de gestion colmate certes au jour le jour de petites brèches, mais il s'épuise dans les questions de détail. Il n'ose pas aborder les problèmes de fond de la stratégie de la radio et de sa programmation.
On voulait faire une radio libre de qualité, une radio étant dans les conditions techniques d'être écoutée. Et on est retombé dans le marasme des autres radios libres.
Voilà le constat de l'échec. Dans ces conditions, Vincent se demande s'il ne vaut pas mieux arrêter les frais, reprendre tout depuis le début. Et il détaille un plan en trois points.
Premièrement, demander à des experts une enquête sérieuse sur les conditions matérielles et financières nécessaires pour qu'une fréquence FM à Bruxelles assure un confort d'écoute valable à l'auditeur. Deuxièmement, réapprofondir le concept d'une autre radio libre à Bruxelles. Objectif, public visé, programmation, ton, liaison avec d'autres pôles d'attraction dans la ville, intégrer une analyse des motifs de démotivation des animateurs et des souscripteurs. Troisièmement, fixer des échéances pour les points 1 et 2, et en attendant, geler l'outil, prendre les mesures conservatoires indispensables, bloquer sur un compte les rentrées extraordinaires, comme les souscriptions. Cet argent doit être consacré aux investissements et non à payer le loyer et l'électricité. Que ceux qui voudraient malgré tout faire des émissions dans la situation actuelle trouvent eux-mêmes les moyens de le faire.
Ce plan est présenté à l'Assemblée Générale du 24 septembre 1984. On procède à un vote qui se fait à main levée. Les propositions sont acceptées. On demande donc une expertise sur les conditions techniques nécessaires pour assurer aux auditeurs un confort d'écoute valable. Il faut aussi résoudre la discussion interne. Doit-on augmenter la puissance de l'émetteur ou doit-on élever la hauteur de l'antenne, quitte à la déménager? Nous prenons rendez-vous avec Yves Jongen, ingénieur au cyclotron à Louvain-la-Neuve, expert haute fréquence agréé par la RTT pour de multiples radios et ancien président contesté de l'ALO. Il nous affirme que l'expertise que nous souhaitons est impossible à effectuer tant qu'il n'y a pas de plan de fréquence et donc pas de 300 kilocycles entre les stations. Pour lui, quand ce plan de fréquence existera et sera appliqué, 25 watts x 4 dipôles, c'est notre installation actuelle, ou 50 watts x 2 dipôles doit suffire. À son avis, vu la configuration géographique de Bruxelles, de manière générale, il est préférable de viser une plus grande hauteur d'antenne qu'une augmentation de la puissance d'émetteur. Doubler la hauteur, c'est augmenter par 4 ou 5 la puissance. Ne peut-on quand même pas un peu améliorer notre installation? Ce serait jeter de l'argent par les fenêtres, dit Yves Jongen. Vu les conditions actuelles sur la bande FM, il ne sert à rien d'augmenter la puissance de l'émetteur à 50 watts et ou de surélever de quelques mètres l'antenne. On ne remarquerait aucune amélioration significative. C'est à la suite de ces considérations que l'on abandonne l'idée de surélever de 2 ou 3 mètres notre antenne, le maximum possible là où elle se trouve, et que l'on envisage de l'installer à un endroit nettement plus élevé par rapport à la ville. Des recherches se feront notamment du côté de la clinique Saint-Étienne, proche de la radio, que l'on peut joindre donc par un câble de basse fréquence, ce qui éviterait une onéreuse connexion par ligne téléphonique spéciale. Les animateurs se plaignent du niveau faible du son et de son caractère sans relief. Yves Jongen se demande s'il n'y a pas des infiltrations d'eau dans l'antenne. Quant au manque de relief du son, il est dû sans doute à la mauvaise qualité des appareils. Pour y remédier, il faudrait acheter un type de table de mixage coûtant au minimum 70 000 francs. Nous ne les avons pas, bien sûr. Nous demandons à Yves Jongen d'être notre technicien haute fréquence agréé par la RTT. Il accepte tout en nous avertissant qu'il ne pourra pas concrètement s'occuper de nous. De fait, nous ne le verrons jamais plus à la radio. Nous ne devrons jamais compter que sur nous-mêmes. L'autre résolution de l'Assemblée générale de Radio Panique du 24 septembre 1984 était d'approfondir le concept d'une autre radio libre à Bruxelles. Objectif, public visé, programmation, ton, liaison avec d'autres pôles d'attraction dans la ville, et d'intégrer dans cette recherche une analyse des motifs de démotivation des animateurs et des proches. Enfin, il faut répondre à la question de savoir s'il n'est pas préférable de tout arrêter et de reprendre à zéro. J'opère un travail théorique. J'établis un lexique détaillé des problèmes et des possibilités. Comme très souvent dans l'histoire de Radio Panique, j'ai l'illusion de croire qu'un travail de clarification théorique permettra de faire avancer la discussion. En général, je suis déçu. Soit on est incapable de hausser le niveau du débat et de globaliser les problèmes, soit on n'y retrouve pas son intérêt particulier et on se montre alors indifférent ou hostile. J'avoue aussi que certains sont sûrement irrités par mon type d'approche de la réalité, trop intellectuelle, trop conceptuelle à leurs yeux. Des réunions générales sont prévues fin 1984. On se plaît davantage à détailler l'échec qu'à chercher des solutions. Radio Panique se veut radio d'agglomération, mais on constate que ce sont les groupes marocains et turcs qui ont le plus de succès, eux qui réalisent des émissions à vocation locale. Le groupe néerlandophone stagne. Ses émissions seront d'ailleurs définitivement interrompues en juin 1985. Du côté des francophones, c'est la débandade. La plupart des émissions du début se sont interrompues. La majorité des membres refuse cependant la proposition de geler l'outil et de tout reprendre par le début. Par contre, on souhaite qu'il y ait une émission d'information alternative typiquement Radio Panique. L'idée de bloquer un compte des rentrées autres que celles des cotisations d'animateurs pour investir dans l'équipement est et restera longtemps irréaliste, car les cotisations ne suffisent pas à payer les dépenses locatives courantes. Vincent Dozo, à la réunion du conseil de gestion du 5 décembre 1984, stigmatise ce qu'il appelle l'inertie et l'incompétence des animateurs et propose que l'on attribue un rôle purement consultatif à l'Assemblée générale, que le conseil de gestion prenne tout le pouvoir. Je critique cette proposition comme antidémocratique et d'ailleurs contraire à la loi de 1921 sur les ASBL. Je pose par contre la question. Le vrai problème n'est-il pas de se demander comment on gère une assemblée de volontaires? On passe au vote la proposition de Vincent. 2 pour, 2 contre, 1 abstention. Comme il n'y a pas de président prévu, c'est la passe. Et donc en fait, le rejet de sa proposition.
Extrait d'un article intitulé « Crise d'identité de Radio Panique » dans Courrier 1030, numéro 19, pages 10 et 11, octobre 1984.
« Qui trop embrasse, mal étreint, dit-on. Ainsi, Radio Panique veut en faire un peu trop et n'a pas encore délimité ses objectifs, son style. L'ouverture à la pluralité ne favorise pas automatiquement une gestion rationnelle. Radio Panique se présente comme une radio d'animation, mais relative non à une communauté homogène. En effet, elle se réfère à une superposition de communautés justement un peu trop refermées sur elles-mêmes dans la réalité sociale. Radio Panique se présente aussi comme radio d'expression. Un de ses buts est justement de tirer des traits d'union entre des communautés culturelles différentes. Et puis, elle voudrait émettre un message reflet des forces et des imaginations d'innovation sociale. Mais rien n'est évident ni automatique à ce niveau, surtout lorsque le groupe de personnes actives à la radio n'arrive pas encore à se trouver lui-même un mode de fonctionnement innovateur. Radio d'animation, radio d'expression, pour le quartier environnant, pour l'ensemble urbain, et puis le style music and news qui s'impose comme dominant, nous sommes plusieurs à penser qu'on peut lui donner une version alternative. Une autre musique, une autre info, d'autres sources, les auditeurs partout frustrés tendent l'oreille. Eh bien, cette dimension, on n'a pas encore été capable de lui donner une réalité à Radio Panique. Même l'émission du Courrier 1030 a été un échec de ce point de vue. Des émissions plus spécialisées par le contenu musical et informatif, ou de par le public visé, un groupe minoritaire, il y en a eu et il y en a encore à Radio Panique. Mais beaucoup d'animateurs se sont démotivés par manque d'audience, un peu aussi par manque de ténacité, de publicité autour de l'émission, aussi en contre-coup de forces dilapidées dans d'autres tâches que celles de la recherche et de la création. Sommes-nous déjà les derniers des Mohicans? Alors quoi? Tout arrêter comme certains le suggèrent? Non, la cause n'est pas entendue. Repartir de l'idée que la radio est un terrible outil d'expression et de communication, que c'est parce qu'elle est un tel outil qu'elle est manipulée, exploitée par les forces politiques et les forces de l'argent. Restituer la radio à son fondement radical.
Je suis venu te dire que je m'en veux.
En janvier 1985, Vincent Dezeau, membre fondateur de la radio, notifie par lettre sa démission du conseil de gestion.
À mon sens, le problème de Radio Panique, à savoir l'impossibilité d'avancer et de faire fonctionner l'outil dans de bonnes conditions, en accord avec le projet de départ, n'est pas lié uniquement aux obstacles extérieurs, mais plutôt à la « dynamique » entre guillemets, interne de gestion, et très concrètement à la composition fictive et réelle de son comité de gestion. J'ai parfois l'impression que l'on dépense plus d'énergie à expliquer et justifier pourquoi et comment cela ne marche pas, car c'est d'échecs qu'il faut parler, qu'à mettre en œuvre des moyens précis pour atteindre des objectifs précis. A-t-on peur de l'efficacité? Pour ma part, je pense que c'est en termes de rentabilité maximale du temps investi qu'il faut penser la gestion de Radio Panique. Or, je constate que ce qui est important pour certains, c'est de travailler collectivement. Vouloir une radio comme Radio Panique, ce n'est pas faire du travail social communautaire. Je veux dire par là que pour réaliser le projet de Radio Panique, il faut d'abord que quelques-uns le prennent en main et prennent en main la gestion de l'outil. Dans un premier temps, il est illusoire de croire que la radio puisse être gérée par les animateurs. Pour en revenir au conseil de gestion, dans sa composition actuelle en tout cas, je ne pense pas qu'il puisse être efficace. Très concrètement, je me demande si l'on a envie que le projet de Radio Panique aboutisse. Plus concrètement encore, comment travailler avec des fantômes? On a reproché beaucoup de choses au permanent, mais a-t-on jamais précisé quel devait être son rôle? En fait, Je crois qu'on est arrivé à une situation de complète inertie, où il est impossible d'avancer ou de reculer, et où on a l'impression de devoir déplacer des montagnes pour prendre la moindre décision. C'est fatigant. C'est donc déçu que je me retire du comité de gestion, et je souhaite sincèrement que vous puissiez mener à bien notre projet auquel je souscris toujours. Amicalement.
En ces années-là, la crise frappe non seulement Radio Panique, mais toutes les radios libres. Témoin, ce tract qui circule alors dans les radios de l'Association pour la libération des ondes.
Légalisation, institutionnalisation, champagne. Un émetteur homologué coût 80 000 francs. Sabam forfait coût 500 000 francs. 5 journalistes patentés coût 3 millions de francs. Augmentation frais coût 800 000 francs. Demain, il faudra être riche ou crever, caviar pour les autres. On leur avait dit de s'asseoir quelques instants et d'attendre. Dans la salle d'attente, les murs étaient gris. Dans cette cave un peu sombre, ils s'ennuyèrent bien vite. Ils ont repeint les murs et regardé par la lucarne les belles radios qui passaient dans la rue. Ils décidèrent de faire des réunions et finirent par obtenir l'autorisation de sortir dans la rue. Hélas, quand ils se présentèrent à la porte de sortie pour faire poinçonner leur ticket, le gardien était sorti quelques instants. On leur dit de s'asseoir et d'attendre. Et ils regardaient par la lucarne les belles radios multicolores carrossées de chrome scintillant qui passaient dans la rue. « Allô, je ne peux plus dire je t'aime. Nous ne sommes plus un mouvement, nous sommes un tas. Grrr !» 3 tonnes de défaitisme sous ta chaise, bébé. Les radios commerciales sont des tigres de papier. Notre combat est juste et nos défaites ne sont que des péripéties de l'histoire. Nous ne pouvons que triompher, car l'histoire a déjà condamné ces piliers puants du capitalisme putréfié. Action, action, marre de la fermer, marrons-nous ensemble. L'avenir est à visage découvert. Nous ne serons donc pas plastique et compagnie, nous serons clowns et sataniques. Le nez rouge comme les poivreaux et leur drapeau et l'œil noir comme leur avenir. Organisation en groupe d'actions régionaux, de la vinaigrette sur les ondes commerciales, des clowns à l'eau dans la rue, des tribunes feu de joie, du rififi dans les journaux, une indigestion radiolibriste pour le gouvernement et des radios, toujours plus de radios libres.
La mal-aimée alternative.
En compulsant les archives de Radio Panique de l'époque, je tombe sur une note personnelle. Elle me semble bien refléter le désarroi des artisans de l'alternative d'alors.
C'est vrai que les temps évoluent très vite, surtout au niveau des médias, en particulier des radios libres. Les jeux semblent déjà faits, mais la plupart d'entre nous en prennent seulement conscience, et même certains pas du tout. La radio libre, c'est fini, mort, terminé, dixit Michel Goethe dans Media Marketing, et il n'a pas entièrement tort. La rupture actuelle est d'autant plus dure que les socialistes, par impuissance ou volonté délibérée, ont trop laissé pourrir les choses. L'alternative s'est exprimée dans les années 70, via des marginalités sociales et culturelles, qui étaient courtisées, dont les contenus s'infiltraient plus ou moins dans les classes sociales. Les règles du jeu ont changé, et nous avons peu de prise sur elles. L'alternative est devenue repoussante. Pour vivre, elle doit plus qu'avant composer. Composée notamment avec un style de développement des médias, où, au risque de se vendre, elle doit elle-même être payée. Dans la presse, il y a eu les différents tournants de Libération et d'Actuel. Reméditer à ce sujet. Réfléchir sur l'évolution des radios en Italie et en France. Quelque part, le choix est le suivant. Conserver tant bien que mal un outil, pouvoir intervenir ponctuellement, ou en pirate quand c'est nécessaire, et quand on a envie. Faire face au défi du développement brutal qui nous est imposé si on veut exister comme radio quand même cohérente, polarisante. Cesser de faire de la radio et faire autre chose. Pour retrouver sans doute des problèmes analogues.
Yeah.
extrait du journal de bord de Radio Panique, début de l'année 1985. Il est caractéristique de cette époque que beaucoup de pages sont arrachées ou servent à noter le contenu des coups de fil, en particulier les dédicaces des émissions turques. Certains, dont le permanent, vivent ce procédé comme un nouveau coup symbolique porté à l'esprit associatif. La crise de la radio sointe par tous les côtés.
16 février 85, le permanent.
Chers amis de Gourbet-Cessy, tâchez de respecter ce cahier et peut-être de l'utiliser pour ce à quoi il sert.
20 février 85, le permanent.
Lundi, la technique était une vraie poubelle. Ce jeudi, la technique de nouveau dans cet état. Vieux papier, cendres renversées, vieux gobelets, pas nettoyés. Dans cette radio, il n'y a personne qui est le domestique d'autre, que chacun ait un minimum de discipline personnelle. Autre chose, il est strictement interdit de sortir du matériel de la radio sans autorisation.
27 février 85, le permanent.
Émission Gourbet-Cessy. Je remarque que les deux personnes présentes ne maîtrisent absolument pas la technique. Je pense que j'aurais dû arrêter l'émission. Je n'ai pas fait par crainte de malentendus supplémentaires. On se demande s'il faut vraiment acheter du matériel plus sophistiqué quand on constate une telle désinvolture. Un bras de platine a failli y passer.
1er mars 85, le permanent.
Le convecteur a brûlé toute la nuit. Je signale que les notes de gaz sont déjà très élevées.
8 mars 85, le permanent.
La dernière émission a oublié d'éteindre le chauffage. Il fait torride. Négligence des animateurs égale argent gaspillé.
21 mars 85, le permanent.
La technique a été laissée en désordre. Une chaise a été défoncée dans le studio. Les déchets n'ont pas été ramassés. La mixette sur pile est restée sur on. L'interrupteur général n'a pas été éteint. La cassette du jingle de panique n'a pas été rangée à sa place. Le convecteur a brûlé toute la nuit. Une seule serrure de la porte d'entrée a été fermée. Merde !
22 mars 85, le permanent.
J'en ai marre d'essayer de gérer le local de la radio s'il n'y a aucune participation. Aujourd'hui à nouveau, chauffage ouvert au maximum. Interrupteur général non éteint.
22 avril 85, le permanent.
S'il vous plaît, ne mangez pas et ne buvez pas au-dessus des appareils. Les consommateurs de cacahuètes et de pistaches sont priés d'évacuer les écorces ou les pelures.
23 avril 85, le permanent.
Je redemande aux utilisateurs du téléphone de payer régulièrement leurs communications.
Début 1985, c'est toujours la guerre entre radios sur la bande FM. Mi-février, la justice semble se réveiller. Elle organise une vague de saisies de radios à Bruxelles, depuis Radio Contact, 14e saisie, jusqu'à Fréquencel, cette radio qui a obligé Radio Panique à changer de fréquence, et aussi Radio Maeva, qui émet à 2000 watts et brouille Radio Air Libre et même Radio Campus. Les radios saisies émettaient à une puissance apparente rayonnée dépassant de très loin les 100 watts autorisés. Le parquet révèle quelques-unes des astuces de ces radios. Les 6 radios dépendants de Radio Contact ont dissimulé des dispositifs amplificateurs dans les antennes mêmes, à plus de 20 mètres de hauteur. Dans d'autres cas, les amplificateurs sont cachés dans de faux murs. Radio Contact estime son matériel saisi à 3 millions de francs. Bah, il y a d'autres millions en réserve. Le ministre-président de la Communauté française, Philippe Moureau, déclare que le pourrissement du dossier des radios libres incombe totalement à ceux qui bloquent la négociation d'un accord dans le domaine de l'audiovisuel, c'est-à-dire le gouvernement national de couleur chrétienne libérale. En jeu, la reconnaissance de RTL TVI et l'autorisation de la publicité à RTL. Entre-temps, les radios hors-la-loi grignotent du terrain sur le plan législatif. 15 mai 1985. La commission de réflexion sur l'audiovisuel, que Robert Wangermé préside désormais, propose de laisser le 104-108 MHz pour les radios locales et de réserver le 100-104 MHz pour les grosses radios avec 1 kW de puissance.
Et pendant ce temps, que se passe-t-il à Radio Panique ?
On entreprend les démarches avec les responsables de l'approche clinique Saint-Étienne en vue de pouvoir installer l'antenne sur son toit, une trentaine de mètres plus élevé que celui de notre local. Ces démarches vont s'avérer plus complexes et plus longues que prévu. Dans l'immédiat, on achète une nouvelle mixette et surtout un lecteur de multicassette que j'ai déniché. On prépare soigneusement une grande fête en mai. Elle n'a pas le succès escompté. Le débat de fond s'enlise. Carlos D'Amata annonce sa prochaine démission du conseil de gestion. L'atmosphère reste donc morose. On a certes reçu et rempli en mars des formulaires de la RTT pour l'attribution d'une fréquence. Mais celle-ci tarde à venir. On n'y croit plus. Moi aussi, je suis très découragé. Mes tâches de permanent me semblent dérisoires et désagréables.
Dans ces conditions extrêmes de crise, quelles émissions y a-t-il alors à Radio Panique ?
Fin 1985, des premiers protagonistes, il ne reste que les émissions maghrébines, kurdes et turques, et aussi l'émission de la JOC Flash Culture. Quelques arrivées cependant. Deux émissions musicales le mercredi soir, Roxistan, The Mike and Sam Hit Parade. Un professeur de l'ISCO, école de rattrapage de l'enseignement supérieur, proche du MOC, mouvement ouvrier chrétien, fait une série d'émissions avec ses étudiants. Quelques jeunes pacifistes animent l'émission qui s'appelle « Où sont passées les colombes ?». Toutes ces émissions nouvelles ne durent pas longtemps. Et puis, arrivée d'une émission d'inspiration punk, qui aura une plus longue durée et marquera de son empreinte cette période. J'ai nommé « Les Innommables ».
Alors, nous avons en studio un animateur d'autres émissions, de l'émission Les Innommables. Et bon, lui-même va nous parler de sa manière de voir la musique. Alors, peut-être tu peux peut-être te situer pour les auditeurs qui ne connaissent pas ton émission, c'est-à-dire...
Ben, Les Innommables, c'est une émission punk, hein, sur Radio Panique, tous les vendredis. Et bon, j'anime ça avec des copains, des gens comme Kleenex et autres. Des gens qui... Enfin, des punks marocains aussi, des punks... Enfin, moi qui suis espagnol, quoi. Et par rapport à la musique, on dit souvent que les punks sont déjà dépassés, que c'est vieux. Mais c'est vrai que juste pour le moment, l'unique scène alternative belge qui bouge, c'est la musique punk, puisque généralement il y a 2-3 concerts de punk hardcore, comme ce qu'on vient écouter maintenant tous les semaines. Quoi. Seulement, on n'entend pas RTBF, c'est pas là qu'on va les annoncer. Quoi. Enfin bon. Ça bouge pas mal, quoi. C'est en logique.
Disons que ça bouge pas mal, mais en dehors des circuits commerciaux, quoi, alors.
C'est tout à fait alternatif, hein. Ça va de... On entend ça chez les copains qui disent « Veuille un concert à tel endroit », un truc comme ça, quoi, uniquement.
Et lors des concerts punk, il y a beaucoup de monde ?
Bah, il y a beaucoup de monde. Faut voir, c'est relatif, hein, en fonction des gens qui écoutent, oui. Il y a toujours, ça a toujours rempli. En fonction du fait que c'est une musique très alternative, réduit à un certain nombre de personnes, quoi.
Oui, et alors disons qu'ici en général en Belgique, l'image classique des punks, c'est les gens qui ont les cheveux tout droits sur la tête, peints de couleurs vives, avec une épingle de sûreté dans l'oreille, mais bon, tu n'es pas comme ça aujourd'hui. Alors pour toi peut-être c'est autre chose que ça, être punk ou aimer la musique punk
Il y a presque une sorte de racisme entre punk, parce qu'il y a plusieurs catégories aussi. Il y a les vieux punk rock. C'est des années 80-81. Et puis le punk hardcore, qui est à la mode. Maintenant, tout le monde écoute du punk hardcore. Dès qu'on écoute un peu de punk rock, on dit qu'on est un peu déphasé. Enfin, moi, je préfère le punk rock. Hein. Je préfère, genre, comme les Berus, maintenant, en France. Tout le monde écoute en France les Berus. Mais c'est en Belgique, c'est surtout des punk hardcore. Moi, ce que je critique chez eux, c'est que... Ils sont plus tellement... Enfin, j'aime bien la musique punk hardcore aussi, mais ils ont un peu rejeté tout... Enfin, toute l'idéologie punk du départ, quoi. Enfin, pas tellement du départ, parce que celle du départ, j'aimais pas tellement dans le sens où c'était trop nihiliste. Enfin, est-ce qu'ils disaient anarchisme, mais bon, ils étaient trop nihilistes. Pour voir vraiment l'idéologie punk, il faut plutôt voir les punks de 80-81. Ou bien les punks de maintenant qui existent en France, où l'hardcore n'est pas encore arrivé, quand c'est encore le vieux punk rock, comme on dit, mais déjà. Ben, l'idéologie punk, au départ, c'est un... Enfin, c'était très nihiliste, c'était
c'est le nouveau futur.
Ouais, on rejette tout pratiquement, tout le bloc, toute la société. Puis ça a changé, c'était un peu plus positif. On dit on rejette tout, mais bon, on va essayer de construire quelque chose d'autre à la place. Ça, c'était beaucoup plus anarchiste. Et puis maintenant, le punk hardcore, c'est un croisement entre le punk, le vieux punk rock et un peu l'art rock. Et alors ils mêlent un peu de satanique, un peu de presque du fascisme, opposé. Donc c'est pas très bien défini l'idéologie punk hardcore. Il y a encore pas mal d'anarchistes et d'un autre côté il y a aussi des fachos quoi.
Je sais pas si c'est l'endroit pour discuter pour moi sur la génération des jeunes espagnols quoi. Bon, moi je critique assez fort parce qu'ils sont assez fort enfermés dans un ghetto. Et la plupart des Espagnols, quoi, surtout dans le quartier de Saint-Gilles, sont enfermés. Quoi, et ils fréquentent des trucs comme la Primavera. Ils y vont pour trouver une fiancée. Ils écoutent encore Manolo Escobar et des trucs comme ça d'il y a 30 ans quoi, que les parents ont apporté en cassette. Et moi personnellement, je suis un cas à part, malgré que je sais qu'il y a un autre punk espagnol à Bruxelles. Mais bon, c'est vrai que les jeunes espagnols, ils aiment bien écouter encore du flamenco, des trucs comme ça, des rumba, des trucs comme ça.
Ouais. Toi, qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Uniquement la musique punk ou bien tu écoutes parfois autre chose aussi ?
Bah, j'aime toute la gamme, plus ou moins New Wave, quoi. C'est-à-dire du punk, même New Wave normal. Enfin, New Wave alternative, quoi, et même de l'industriel, quoi, de l'électronique pure, quoi, rien que des bruits, du noise, comme on appelle.
Ok, tu nous as amené un disque, tu peux peut-être le présenter.
Ben, j'ai pensé mettre les BRU, parce que maintenant c'est à mode, tout le monde écoute, même les BCBG écoutent ça en France. Hein. Ils sont même deuxième au hit parade, avec un album qui est sorti il y a 2 ans, toujours à l'avance. Et c'est salut à toi, hein. C'est un salut à tous les peuples du monde.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple Khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le...
1985 voit aussi le début d'une émission de dérision, Courant d'air, initiée par Philippe Walraff, un de nos membres fondateurs, émission rejointe par Philippe Livrot, lequel, au fil du temps, va s'avérer une cheville ouvrière infatigable et indispensable au service de la radio. À l'automne, la grille horaire n'est plus occupée que par une bonne vingtaine d'heures, dont plus de la moitié est prise en main par le groupe turc Silanin Sesi. Je passe une annonce dans différents journaux et revues afin d'attirer de nouveaux animateurs. La plupart de ceux qui répondent n'ont aucun projet ni le désir d'en avoir. Certains renoncent lorsqu'ils apprennent qu'ils ne seront pas payés et devront eux-mêmes payer des cotisations d'animation. D'autres enfin passent un moment et ne persistent pas. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Panique, et maintenant ce Radio Panique, un hommage à Jacques Prévert, ça va durer environ une demi-heure avec un pot-pourri de ses chansons. Et n'oubliez pas, Radio Panique, parfois, nostalgie, une oreille en arrière.
Exilé des vacances dans sa zone perdue.
Dans sa lettre de démission de janvier 1985, Vincent Dezeau fait allusion à des reproches qui sont faits aux permanents. Quels sont ces reproches ?
Est-ce que je travaille trop peu ? Non. Mais certains considèrent que je consacre une partie trop importante de mon temps à autre chose que la radio. Je dois m'expliquer. En fait, comme les autres responsables, je suis très affecté par la crise qui s'est installée de manière permanente depuis mars 1984. Je partage le sentiment commun d'impuissance face aux atermoiements des pouvoirs politiques et juridiques qui laissent les radios associatives reconnues agoniser sur la bande FM. Par contre, je l'ai l'outil, comme Carlos D'Amata et surtout Vincent Dozo le proposent, me semble fatal. Nous perdrions toute chance de récupérer une place au soleil le jour où existera un plan de fréquence. Il y a environ 80 radios à Bruxelles et seule une quinzaine de fréquences seront attribuées. Comme nous nous distancions des grands partis politiques, nous ne devrons qu'à nous-mêmes l'octroi d'une fréquence. Il faut donc se baser sur le fait que nous sommes une radio déjà reconnue et subsister tant bien que mal. Mais s'il est impossible, dans les conditions actuelles, de nous faire valoir dans la jungle des ondes, alors assurons notre promotion par d'autres moyens, des moyens non radiophoniques. C'est mon option personnelle, et elle n'est toujours pas bien comprise par tout le monde. Avec l'accord du conseil de gestion, durant les années 1984-85, je passe donc une bonne partie de mon temps à trois activités extra-radiophoniques. La gestion et la direction rédactionnelle du magazine mensuel Courrier 1030, avec ses pages sur la situation des radios et sur Radio Panique. La réalisation du vidéogramme « Il n'y a plus de rumba dans l'air, les radios libres à Bruxelles » et l'organisation d'un colloque international sur les radios pour une poignée de watts qui aura lieu au Botanique en novembre 1985. Il est évident que ces activités sont bien plus gratifiantes pour moi que ma permanence dans une radio au sein de laquelle domine un climat dépressif et polémique. Certains ont-ils pensé que je profitais ainsi de ma position de responsable et d'employé rémunéré à la fois pour faire ce que je voulais? C'est possible. Moi, je pense avoir apporté de cette façon le meilleur de moi-même dans les limites de mes capacités pour le bien commun de Radio Panique. C'est peut-être grâce à ces activités extra-radiophoniques qu'en effet nous obtiendrons une fréquence et aussi que je vais pouvoir faire le gros dos tout le long du temps de la crise et tenir le coup.
Pourquoi es-tu resté dans ces conditions? Est-ce uniquement pour ne pas perdre un emploi?
Même aujourd'hui, avec le recul, je ne peux pas répondre clairement à cette question. Il est vrai que durant ces années, je m'étais jeté éperdument dans la pratique de création picturale et que si celle-ci m'avait permis de vivre, j'aurais peut-être changé de cap. D'un autre côté, j'ai un tempérament obstiné, j'ai un certain sens de la fidélité et je n'abandonne pas facilement ce que j'ai entrepris. Mon engagement personnel dans une imprimerie alternative, Mecaprint, puis dans le courrier 1030 et enfin à Radio Panique, était très important pour moi, puisque c'était la voie que je m'étais donnée à moi-même pour continuer l'esprit de mai 68 et sortir de mes apories comme intellectuel et comme militant politique. Abandonner Radio Panique aurait été alors un échec personnel. Je n'aurais pas été au bout de cette affaire. Et puis tout n'était pas complètement négatif. J'ai déjà évoqué plus haut les découvertes que Radio Panique m'a fait faire au niveau de la pratique radiophonique. Cela, plus les multiples rencontres et le contact avec les subcultures des plus jeunes et les cultures étrangères ont compensé les problèmes parfois sordides de gestion et de vie quotidienne. Et puis la suite de l'histoire ne sera pas qu'une vallée de larmes.
C'est moi qui vous le dis, ça noircit le blanc de l'œil, et puis ça on l'est dit. Des histoires de cercueil, c'est triste et pas joli.
C'était l'état de grâce de Radio Panique et de très courte durée. Radio Panique s'enfonce dans la crise. Quatrième chapitre de la série « Comme un avion sans aile, l'histoire de Radio Panique ». Première partie, 1983-1987, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes. Prochain chapitre, la promotion de Radio Panique par des voies non radiophoniques.